Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma comme chaque mercredi. Et je suis aujourd'hui avec monsieur Hakim Fdaouche dans le studio parce que Raphaël n'est pas là. Nous allons donc créer cette émission et animer ce Confluence Cinéma tous les deux, Hakim.
Oui,
ça va?
Oui. Bah oui, un petit peu stressé parce que c'est quelque chose d'inédit. Hein. D'abord, on est tous les deux face à face. Bon, heureusement qu'il y a une vitre qui nous sépare. Mais voilà, Raphaël n'est pas là. Et donc, du coup, je vais parler très rapidement de X-Men que j'ai beaucoup aimé seul, alors que je suppose que lui aurait bien voulu en parler. Il n'est pas avec nous, il est en Italie, j'espère qu'il nous rejoindra la semaine prochaine.
Alors, deux volets dans ce Confluence Cinéma, donc on va parler, comme tu l'as dit, de X-Men. Tu vas revenir aussi sur la sortie DVD, c'est ça,
de Velvet. D'un grand classique, d'un film culte que je ne connaissais pas, et je pense que beaucoup de personnes ne le connaissent pas, bien qu'il y a quelques images qu'on doit mine de rien connaître. Hein. C'est Velvet Goldmine qui sort chez Carlotta, qui est sorti il y a une semaine de cela, DVD Blu-ray que j'ai pu voir et qui est vachement drôle, vachement beau et vachement tragique.
Alors, deuxième partie, on parlera de Godard. Alors, on reviendra sur le mythique À bout de souffle, qui est un peu, avec les 400 coups, un des premiers films de la nouvelle vague, qui est aussi le film qui va faire connaître Godard, qui va sublimer Belmondo. Et du coup, tu reviendras un petit peu, on en avait parlé avec Raphaël la semaine dernière, mais sur L'adieu au langage, qui est le dernier film de Godard, qui était... Grand Prix à Cannes, non, prix du jury.
Prix du jury. Que j'avais pas vu à Cannes, que j'avais pas pu voir à temps pour en parler avec Raphaël l'année dernière. Et je me suis dit, vu qu'on parle de À bout de souffle, son premier long métrage, pourquoi ne pas reparler très rapidement de ce qui risque d'être son dernier long métrage. Je n'espère pas, mais vu la santé de Godard et vu le fait qu'il met beaucoup de temps à concrétiser des longs métrages, peut-être que c'est le dernier. Donc j'avais envie de dire un petit mot sur les impressions que m'avait donné ce film.
Alors, on attaque par contre avec une des sorties, une des actus de ce printemps, c'est X-Men. Oui. Alors, tu me disais le deuxième opus du deuxième volet.
Alors, deuxième opus de la nouvelle franchise, hein, car il faut savoir que X-Men, le premier date de 2002, c'est Bryan Singer qui l'a réalisé, qui réalise également celui-ci. Ça avait été un gros succès, c'est vraiment le premier film qui va ouvrir la porte à toutes les adaptations cinématographiques des Marvel, des revues Marvel. Il y a DC Comics, donc Superman, Batman et Marvel, tout ce qui est Iron Man, tout ce qui est X-Men, Avengers, etc. Et alors, il y a eu beaucoup de films X-Men. Il y a eu le 1, il y a eu le 2, il y a eu le 3 très mauvais qui a été réalisé par Brett Ratner. Il va y avoir ensuite des spin-offs, donc des films uniquement centrés sur un personnage. Et là, le personnage, ça sera Wolverine. Donc, il va y avoir Wolverine, les origines des X-Men. Il y a plein d'autres. Il y a récemment eu un Wolverine l'été dernier qui se passait au Japon. Tous mauvais le plus un que les autres. Et là, il y a deux ans, il y a eu un nouveau X-Men qui est arrivé qui s'appelait X-Men au commencement. Donc, c'est la grande nouveauté depuis des années, depuis 2005, je crois, depuis Batman Begins, où on revient à la surface, aux origines des super-héros, des franchises. Et donc là, ils ont complètement recréé l'univers X-Men en utilisant des jeunes acteurs. Dans le premier X-Men, on avait le professeur Xavier, Magneto et toute la clique à une période où ils étaient déjà âgés. Et dans le nouveau X-Men, X-Men au commencement, il y a deux ans, on avait des nouveaux acteurs qui interprétaient ces mêmes personnages, mais en plus jeunes. On avait James McAvoy qui jouait Patrick Stewart avant son accident et après quand il est devenu infirme. Et on avait surtout Michael Fassbender qui campait le personnage de Magneto, qui auparavant était interprété par Ian McKellen, qui a déjà joué pour Bryan Singer dans le film Un élève doué, où il campait un ancien nazi. Et on le connaît également pour son rôle de Gandalf dans la série du Seigneur des Anneaux. Alors, il faut savoir que la série X-Men avait retrouvé une sorte d'engouement auprès du public, auprès de la critique, grâce à ce nouvel opus, hein, X-Men au commencement. Et Bryan Singer, qui mine de rien était toujours qui surveillait un petit peu les projets X-Men, là va le produire et par accident va se retrouver aux commandes de ce tout nouveau X-Men, Days of the Future Past, qui vient de sortir, dont la particularité est qu'il compte dans son casting un Frenchie qu'on connaît bien, qui a accédé à la gloire il y a déjà deux ans grâce à Intouchable, c'est Omar Sy, qui a un petit rôle qu'on voit dès le début, du moins dans la partie présente du film, car le film contient beaucoup d'allers-retours entre le passé et l'avenir, ce qui me permet d'ailleurs d'enchaîner avec le pitch du film. On est dans un futur proche, à une époque très sombre où les mutants sont massacrés, sont exterminés par des monstres rombos qui très grands, qui ont la particularité d'avoir le pouvoir de Mystique. Mystique, c'est ce personnage féminin interprété par Jennifer Lawrence qui est donc tout en bleu, qui est tout bleu, et qui a la possibilité de changer d'apparence, de prendre l'apparence de ses adversaires. Et donc ces méchants, ces gros robots, ces gros monstres ont cette facilité-là. Et donc du coup, progressivement, la race des mutants va se décimer, va disparaître progressivement. Et donc du coup, le professeur Xavier et Magneto, hein, qui bien avant cela étaient des ennemis jurés, d'ailleurs on est étonné de les voir ensemble, on comprend que c'est la survie de la race des mutants qui en est question. Qui est en jeu, décide d'envoyer dans le futur, dans le passé, donc dans les années 70, Wolverine, qui est à chaque fois, une nouvelle fois, interprété par Hugh Jackman. Et donc, du coup, Hugh Jackman aura la mission dans les années 70 de tuer la personne, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais il dirige d'une main de fer une entreprise qui justement va construire ses robots et qui va aussi capturer Mystique et lui prélever de l'ADN pour ensuite incorporer dans ses robots son pouvoir magique, à savoir se transformer, de prendre l'apparence de ses ennemis. Et bien, moi, je trouve que c'est un très bon divertissement. Bryan Singer a réussi, je trouve que c'est pas mal statistiquement parlant, à opposer finalement l'ancienne génération des acteurs, donc les vieux acteurs des premiers X-Men, avec les nouveaux acteurs tout jeunes de cette nouvelle franchise. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal d'allers-retours entre le passé et le présent qui sont plutôt bien amené d'un point de vue du montage. On n'est jamais perdu. On sait exactement à quel moment on se trouve. Et puis, je ne vais pas dévoiler tout le film. Il y a vraiment des bons rebondissements scénaristiques à laquelle on ne s'attend pas du tout. Comme par exemple le personnage de Magneto interprété par Michael Fassbender, assez lunatique. On ne sait pas vraiment s'il est du bon ou du mauvais côté. On a toujours vraiment ce lot de plaisir. Et pour moi, c'est vraiment un très bon blockbuster, très bien réussi. Je mettrai quelques petites réserves sur... c'est très technique, la caméra qu'ils ont utilisée pour le tournage, un peu trop numérique pour moi, ce qui donne des images un petit peu floues par moment. Bon, ça c'est un petit détail.
Et alors, t'en sais plus un petit peu sur la suite de
bah,
la
apparemment,
série, ça va être une trilogie ou...
Ben, apparemment ils sont. Bryan Singer a juste avant la promotion a balancé sur son compte Twitter qu'il y aurait un troisième volet prévu pour 2016. Il serait également en commande. Et puis non, je vais pas dire comment ça se termine, si ça se termine bien ou pas bien. C'est un film assez noir, un peu qui suit un peu la mouvance actuelle, hein, de ces films assez noirs sur les super-héros. Mais apparemment, voilà, il y aura un troisième épisode et moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour finir, Bryan Singer, qu'on connaît parce que voilà, il a mis en scène les premiers X-Men, il a également mis en scène Superman Returns qui a été un énorme bide. Il a également réalisé ce chef-d'œuvre du polar du film noir qui est Usual Suspect. Et en ce moment, il a quelques problèmes du type Polanski, hein, parce que bon, Ryan Singer fait partie de ces réalisateurs qui a toujours ouvertement révélé son... révélé et avec fierté son homosexualité. Et juste avant la promotion de X-Men, il y a deux affaires à une semaine d'intervalle qui ont été ouvertes, hein, qui ont été dévoilées au public et à la presse, des affaires d'agression sexuelle envers des mineurs de 17 ans, une qui serait intervenue au début des années 90 et une autre en 2006, juste après la promotion juste au moment de la promotion de Superman Returns. Donc voilà, donc Bryan Singer a quelques petits problèmes personnels et du coup il n'était pas là durant la promotion car il n'avait pas envie que ces deux affaires entachent la promotion de ce film qui, ma foi, je le redis une seconde fois, est plutôt réussi.
D'accord. Alors on va parler maintenant d'un autre film, c'est du coup une sortie DVD, c'est ça ?
Oui, DVD Blu-ray. Mais c'est un film qui dépeint le monde glam rock, hein, ce courant pas esthétique mais musical qui intervient dans les années 70 au Royaume-Uni.
L'époque un petit peu Lou Reed, David Bowie.
Exactement. Tout ça, donc ces chanteurs
on
très.
On est un peu entre le rock, un petit peu avant le punk.
Bah oui, justement, apparemment
très,
c'est un événement
très riche au niveau musical, quoi.
Voilà, c'est un courant qui va annoncer très rapidement le mouvement punk qui va intervenir dans les années 80.
Alors moi, je te coupe deux secondes. J'avais une petite question, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, et moi qui suis un petit peu néophyte dans cet univers, quand il y a des sorties DVD, tout ça, c'est souvent Carlotta. Alors c'est ça, tu peux nous en parler un petit peu, c'est un distributeur, c'est ça, qui ressort un peu des DVD.
Oui, alors Carlotta, depuis quelques années, on va dire... grossit un peu son calendrier, mais je veux dire son catalogue, et prend vraiment beaucoup d'importance sur le marché de la distribution et de la vente de DVD. À une époque, c'était Wildside, donc il y a 5-6 ans, où ils avaient vraiment tout le marché du film asiatique, ils explosaient, ils écrasaient tout sur le marché. Et depuis quelques temps, on s'en rend compte aussi bien pour les sorties DVD, les ressorties ciné. Ça nous est arrivé d'évoquer les sorties de Lettres d'une inconnue, d'Ophuls, plein d'autres films qui ont été retravaillés et redistribués dans les salles art et essai, notamment l'Institut Lumière, mais également en DVD. Ils ont, pour ce festival de Cannes, on en a un peu parlé durant le compte-rendu du festival de Cannes, ressorti Massacre à tronçonneuse, hein, dans le cadre d'une excellente projection. Et moi, ce que je trouve vraiment bien avec Carlotta, c'est qu'ils arrivent à vraiment diversifier leur choix de films. Ils vont aussi bien dans le cinéma d'auteur, le dessin animé, le cinéma grand public, le cinéma de genre. Et là, j'ai vu... c'est un film que je ne connaissais pas, que j'avais envie de découvrir. Et c'est réalisé par Todd Haynes, qui... Alors, on connaît peut-être pas trop parce qu'il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait beaucoup de films qui traitent du milieu musical. Il va réaliser d'ailleurs son premier film en 97, c'est peut-être que tu connais ce groupe Amaury, c'est Superstar, qui revient sur la vie de la chanteuse Karen Carpenter, hein, qui jouait dans le groupe The Carpenter.
D'accord.
Donc voilà, et il va faire aussi un autre film qui lui va le rendre très très célèbre, d'ailleurs il était venu à l'Institut Lumière pour ça, I'm Not There, sur la vie de Bob Dylan, hein, où là Bob Dylan était interprété par plusieurs acteurs, dont une femme, Cate Blanchett,
qui était d'ailleurs le personnage qui ressemblait le plus à Dylan, voilà. De tous ceux qui étaient... qui était évoqué, quoi.
Et donc du coup Velvet Goldmine, c'est vraiment le... alors j'espère que je le prononce bien, Velvet Goldmine ou Goldmine, c'est un film qui était présenté en compétition à Cannes en 98, et en faisant mes recherches, j'ai été vraiment assez étonné de voir, c'est pour ça que je vais prendre quelques secondes pour vous annoncer la compétition à l'époque, assez impressionné de voir à quel point la compétition de cette époque était assez riche d'auteurs peut-être pas très connus à l'époque, mais qui maintenant sont reconnus par le monde entier. Donc il y avait April de Nanni Moretti, je parle de la compétition officielle. April de Nanni Moretti, Las Vegas Parno de Terry Gilliam, Festan de Thomas Vinterberg, Les Idiots de Lars von Trier, Illuminata de John Turturro, La Classe des Neiges de Claude Miller, La Vie est Belle de Benigni, My Name is Joe de Ken Loach, Le Général de John Boorman, The Hole de Tsai Ming-liang, peut-être un réalisateur qu'on connaît un petit peu moins, et L'Éternité est un jour d'Angelo Poulos, qui va avoir la Palme d'Or cette année, L'École de la chair de Benoît Jacquot, et ceux qui même prendront le train de Chéreau.
Ouais, tu nous plonges dans le milieu des années 90.
98,
quoi.
Alors là, c'est vraiment... Ouais, c'est et donc, ça, ce film, Velvet Goldmine, était également en compétition officielle. Bon, il n'aura pas de prix, mais c'était une année assez grandiose, et donc, du coup, j'étais assez étonné de voir cette... Voilà, on critique souvent Cannes comme quoi la compétition est assez pas très équilibrée, et on se rend compte, des années plus tard, que finalement, c'était quand même pas mal. Et... comme je le disais, Velvet Goldmine, l'histoire de ce film, c'est plus ou moins la même histoire que ce grand classique qui est Citizen Kane. Ensuite, l'histoire d'un journaliste interprété par Christian Bale, qui à l'époque avait 24 ans, était tout jeuneau, il ne faisait pas encore de la gonflette, il ne faisait pas encore ses baisses de régime, je grossis, je maigris, il était encore tout normal. Il interprète un journaliste qui va faire une enquête autour d'un ancien chanteur du glam rock qui, 10 ans auparavant, a orchestré et mis en scène sa propre mort en direct. Et donc, du coup, il va essayer de rencontrer ses anciens proches, ses anciens amis, son ancienne femme, son ex-compagnon, compagne, pardon, et essayer de déceler un peu le mystère, hein, ce mystère qui se trône autour de ce chanteur, hein, qui s'appelle Brian Sladd dans le film. Et dans le film, il est interprété par Jonathan Rhys-Meyer, qu'on a vu par la suite dans plusieurs blockbusters comme Mission Impossible 3, comme dans plein de films. Il était notamment le gendre idéal dans Match Point de Woody Allen, qui était un peu tiraillé, malmené par la magnifique Scarlett Johansson. Alors ce film peut-être ne vous dit rien, mais il y a peut-être une image que tous les cinéphiles doivent connaître, c'est cette image d'Ewan McGregor, qui joue également dedans, tout blond avec des cheveux longs à la Kurt Cobain face à un micro. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, cette image.
Non, j'ai vu un petit peu là, quand je me suis renseigné il y a quelques heures, tu m'as dit que tu voulais parler de ce film, mais sinon c'est vrai que moi j'étais passé un petit peu à côté, mais par contre ça me donne envie de le voir vraiment.
Et ce film traîne un peu le statut de film culte, hein. Quand il est sorti en 98, ça n'a pas été le grand succès attendu, mais plus le film avançait, surtout la sortie DVD en 99, au moment où le DVD... commencer à exploser sur le marché va enrichir ce statut de film culte. Donc le film est également ponctué de beaucoup d'allers-retours entre le passé, le présent et les scènes qui dépeint les concerts, quand même, sont vraiment ahurissantes. Ça m'a fait penser à un film que j'adore beaucoup, qui est pour un de mes films cultes, qui est Phantom of Paradise. Et pour moi, ce film, c'est Phantom of Paradise x 1000. C'est-à-dire qu'on a des concerts à tire-larigot toutes les minutes. On a des séquences assez intimistes entre justement le personnage de Ewan McGregor et Jonathan Rhys Meyers, hein, qui justement sont casés chacun de leur côté, mais vu que la grande particularité des chanteurs du glam rock consistait à revendiquer haut et fort leur côté un peu androgyne, on a le droit par moments à des séquences assez intimistes, à la limite de l'homosexualité, qui sont vraiment filmées avec beaucoup de pudeur, mais sans clichés, et plastiquement, je trouve ça assez sublime. Et c'est également un regard assez, assez intéressant sur cette Angleterre des 70. Alors, je ne sais pas si en 70-73, il y avait Dad Thatcher
pas encore. 79.
Voilà. Mais on était déjà dans cette période où...
Non, mais le Londres des années 70, de toute façon, c'est la capitale culturelle mondiale. Oui. Quoi. C'est vraiment,
mais le film montre vraiment la confrontation entre une certaine génération très conservateur dans ses principes, dans son esprit, face à cette jeunesse très libérée où on découvrait des jeunes chanteurs qui se maquillaient, qui mettaient des talons hauts, vraiment l'image typique du chanteur glam rock. Et dans le film, le personnage d'Ewan McGregor raconte que dans sa jeunesse, quand ses parents ont remarqué qu'il devenait un petit peu bizarroïde, qu'il était attiré par les hommes et qu'il aimait un certain genre de musique, il lui faisait passer des électrochocs. Voilà. Et au contraire, les électrochocs pendant plusieurs minutes. Les électrochocs lui ont donné envie vraiment de... Enfin, il assimilait les électrochocs au bruit de guitare. Et donc, du coup, ça, au contraire, ça l'amplifie dans sa volonté de devenir chanteur. Alors moi, c'est vraiment un film, quand je dis que j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, c'est sublime, c'est beau. Le seul petit bémol que je mettrais, hein, et là, je le mets au compte du DVD, hein, et c'est très rare pour moi de dire des méchancetés. C'est très rare, ça arrive très rarement que je dise des méchancetés sur les éditions DVD de Carlotta. L'édition de la Valse des Pantins prouve qu'ils peuvent faire du très bon travail. Là, j'ai envie de mettre un petit bémol, c'est que le DVD contient uniquement un petit pauvre bonus de 26 minutes qui est un making-of de l'époque, pas franchement d'une très belle qualité, alors que le film en lui-même est une très belle copie, un très beau son. Et j'ai vu et lu que apparemment l'édition américaine DVD comportait un commentaire audio et plusieurs autres faturettes. Ça aurait été quand même sympa de pouvoir, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits, mais ça aurait été sympa d'offrir une copie DVD Blu-ray avec un peu plus de suppléments pour pouvoir en savoir un peu plus sur vraiment ce phénomène de film culte et peut-être un reportage sur le phénomène du glam rock dans les années 70 en Angleterre. Mais sinon, c'est un film que je vous recommande. C'est vraiment une belle découverte. Je ne connaissais pas du tout ce film. Belle découverte du mois de juin.
Allez, on écoute un morceau de musique et on se retrouve après pour parler de Godard, de ses premiers pas au cinéma et aussi du dernier film qui est sorti à Cannes en 2014. At last needs lust for loving. The tears that fell up a grave. And courtship matters. Superior.
Yeah. it matters. Your courtship matters.
Deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma, et nous allons maintenant revenir un petit peu sur ce cher Jean-Luc Godard avec son dernier film L'Adieu au langage que tu as pu voir il y a quelques temps.
Que j'ai vu il y a deux jours au Comédia, le seul endroit où le film est projeté, à Lyon, en 3D. Et finalement, j'ai eu affaire à ce que je m'attendais, à savoir un film expérimental sur le langage 3D. Ne me demande pas de faire un résumé du film parce que j'en serais complètement incapable, comme pour les récents films de Jean-Luc Godard. C'était le cas pour Film Socialisme, c'est également le cas avec Adieu au langage. J'en suis sorti, le film fait 1h10, mais je vais quand même, faut quand même reconnaître que ça arrive de temps en temps de regarder ma montre parce que ça paraît un peu plus long. Je suis quand même assez vraiment surpris et enchanté de voir qu'un homme de 83 ans arrive encore, a encore l'énergie de réinventer la grammaire cinématographique avec les moyens du bord. Il le disait récemment dans une interview, Godard ne vient pas au Festival de Cannes, ne vient pas recevoir des prix, mais il donne beaucoup d'interviews. Il suffit de taper Jean-Luc Godard sur YouTube et on peut voir des vidéos récentes d'interviews qu'il accorde aux gens qui le désirent. Et on lui pose la question, un journaliste lui pose la question qui est des jeunes réalisateurs viennent vous voir, vous demander conseil, qu'est-ce que vous leur dites? Et Godard dit, mais de toute façon, moi, je vais leur dire quoi? Les jeunes réalisateurs, ils veulent quoi? Ils veulent une équipe de 50 personnes, une grosse caméra, un Oscar. Moi, je vais leur dire quoi? Je vais leur dire, prenez votre iPhone, comme il dit, iPhone, et filmez une histoire. Et puis voilà. Et si je leur dis ça, ils vont partir parce que ça ne les intéresse pas. Et voilà, on a affaire à un vieil homme de 83 ans qui, avec son iPhone, avec 2-3 appareils photo, se pose des questions de mise en scène, se dit comment je vais pouvoir me réapproprier un langage. Et
qui raconte des histoires, quoi. C'est ça, je pense que c'est important dans ce que tu as dit aussi. Lui, ce qu'il dit aux jeunes, mais c'est ce qu'il a toujours dit aussi, Godard, c'est qu'à un moment donné, que ça soit sous ses formes nouvelles vagues, que ça soit après sous ses formes vidéo, que ça soit son retour au cinéma dans les années 80, il a toujours raconté des histoires. C'était, il y avait vraiment quelque chose, que le scénario soit pourri, que le scénario soit bon. Il y a vraiment ce truc-là de l'histoire avec l'image, quoi.
Honnêtement, je ne peux pas dire de quoi ça parle, le film. Je suis incapable de faire un résumé. Il a une troupe d'acteurs qu'on voit régulièrement, qui étaient d'ailleurs à Cannes pour défendre et présenter le film. Ils sont constamment en train de lire des extraits de livres qui relèvent du langage. Donc peut-être un film qui parle sur le langage d'un point de vue universel. Mais après, c'est très compliqué d'en déceler un scénario avec un début A, un milieu B, une fin C. C'est pas linéaire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai enfin vu ce fameux plan que Raphaël nous a décrit, à savoir deux plans qui se superposent en 3D. Ça fait un peu mal aux yeux au début, il nous faut quelques secondes pour s'y faire, mais c'est sublime. Et quand tu vois les photos de tournage où on voit un joli Godard avec un gros cigare dans la bouche, assis sur une chaise, avec seulement 3 personnes et 5 appareils photo, tu te dis, bah ouais, respect. Moi, j'aime beaucoup ces metteurs en scène, vraiment. La plupart des réalisateurs depuis 80 ans, qui sont pour la plupart réas, qui ne se posent pas de questions, qui restent dans un cinéma très traditionnel, et ben là, ce n'est pas le cas. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. Et voilà pourquoi j'aime Godard. On peut lui reprocher tout ce que l'on veut, qu'il soit un petit peu... Voilà, qu'il aime traiter ses admirateurs de faquins ou de se foutre de la gueule de ses spectateurs en ne leur offrant pas du tout d'histoire linéaire ou traditionnelle. Moi, j'ai envie de saluer un artiste qui lui se pose de vraies questions de cinéma. Bravo, monsieur Godard.
Alors, on va revenir justement au film qui a un petit peu créé Godard, on va dire, même s'il existait déjà par ses aventures au Cahier du cinéma, par ses amitiés avec Truffaut, Rivette et les autres. Mais quand même, les débuts de Godard, c'est ce fameux À bout de souffle sur un scénario de Truffaut, un scénario d'ailleurs qui est assez court, finalement une page et demie. Et du coup, Godard va un petit peu révolutionner le cinéma, enfin, avec ses camarades. Mais quand même, ce film-là, c'est un sacré coup de poing, on va dire, qui nous coupe le souffle.
Alors, bien trouvé. Alors qu'au début du tournage, l'équipe ne savait pas du tout où ils allaient. Il faut savoir que Jean-Luc Godard, alors après, je ne sais pas pour Rivette et Romer, mais est un peu en retard par rapport à Chabrol et par rapport à Truffaut, qui eux avaient déjà fait des films. En 57, Chabrol fait Le Beau Serge. Truffaut, en 59, fait Les 400 coups, qui rapporte le prix de la mise en scène à Cannes.
Louis Malle fait Ascenseur pour l'échafaud, voilà. Dans un autre genre, mais quand même.
Et donc, du coup, Godard dit, il faut absolument que je me dépêche, je suis vraiment en retard. Et donc, du coup, il va adapter ce scénario de Truffaut, qui au départ était un peu différent. Si je peux vous recommander un très beau livre sur Godard, c'est Godard au travail, qui est aux éditions Cahiers du cinéma, qui est un très beau livre sur les films tournés dans les années 60 par Godard. Et on a, justement, vu que c'est des synopsis, des scénarios très courts, on a les deux scénarios différents, donc celui de Truffaut et celui de Godard. On voit qu'il y a quand même quelques petites modifications. Et en fait, le tournage va commencer. Il y a Jeanne Siberg, qui est très connue pour ses films américains, soit avec Otto Preminger et plein d'autres. Et Belmondo, qui à l'époque n'est pas encore très connu. Et en plein milieu, le film va se faire grâce au producteur de Bourgard, qui va donner un peu carte blanche à Godard et lui donner l'argent nécessaire pour tourner ce film. Durant le tournage, tout le monde se dit, mais où on va? Car il n'y a pas d'éclairage, les gens ne sont pratiquement pas maquillés, il y a une petite caméra.
Tout est dehors, quoi.
Tout est dehors.
C'est un peu le cahier des charges de la nouvelle vague aussi.
Et
c'est
pas de son direct.
C'est que voilà, c'est vraiment. On sort complètement des studios, on est carrément dans la rue. Alors ça commence au Vieux-Port de Marseille. En plus, c'est quand même des endroits très représentatifs. Le Vieux-Port de Marseille, après les grands boulevards à Paris. On a quand même beaucoup d'images comme ça. C'est aussi la fin d'une époque, le début d'une autre. Un petit peu, on est 15 ans après la fin de la guerre. On est dans le début des Trente Glorieuses. C'est une nouvelle société aussi. Il y a un peu ces voyous, etc., qui fascinent les gens. Et Godard va saisir un truc, quoi. Enfin, c'est clair qu'il y a quelque chose, quoi.
C'est un peu un film noir, on va dire. Le film emprunte des codes du film de gangster, du film noir. D'ailleurs, il y a une magnifique séquence que j'adore où tu as Jean-Paul Belmondo qui regarde un portrait de Humphrey Bogart et qui se touche les lèvres à la manière de Bogart. Et je trouve que c'est un très bel hommage à un cinéma que Godard a vénéré, a apprécié quand il était critique de cinéma et quand il était cinéphile. Je pense qu'il y a moins de films maintenant. Mais il a su se réapproprier un genre avec une grammaire complètement différente.
Alors, ce qui est marrant, là, j'ai une petite citation de Godard que je n'avais jamais lue là-dessus. Quand j'ai tourné À bout de souffle, je pensais que je faisais quelque chose de très précis. Je réalisais un thriller, un film de gangster. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai compris que j'avais fait tout à fait autre chose. Je croyais que je filmais le fils de Scarface ou le retour de Scarface, et j'ai compris que j'avais plutôt tourné Alice au Pays des Merveilles, plus ou moins. Parce que du coup, je pense que c'est ce qui est assez frappant dans cette déclaration de Godard, c'est qu'il y a tout ce truc de polar, de thriller, etc., de renouveau un petit peu du film de gangster. Et en même temps, et là on va le retrouver encore plus dans Pierrot le Fou quelques années après, il y a aussi tout ce truc métaphorique, quoi, où c'est pas un simple polar, une poursuite, machin. Il y a aussi ce côté poétique et ce côté, comme ça, personnage lunaire un petit peu de Belmondo qui va fasciner des générations de jeunes hommes. Enfin,
Tarantino
avec ce film-là, Belmondo, ça va devenir pour des dizaines et des dizaines de gamins, le mec que t'as envie d'être, comme t'as eu James Dean 5-6 ans avant aux États-Unis. Et là, c'est Belmondo. Tout le monde a envie d'avoir ce côté-là, tu vois, un peu loulou, mais
très
gentil.
Cool,
tu vois, à la fois viril, mais en même temps avec un petit côté féminin sur certains trucs. Enfin, tu vois, c'est un petit peu l'alliage parfait, quoi. Le bagou et en même temps la classe, les belles nanas. Enfin, il va y avoir aussi ce... Et quand même, moi, je veux pas enlever à Belmondo le fait qu'il amène aussi énormément de choses au film, quoi.
Mais il y a beaucoup d'improvisation. D'ailleurs, Godard avait son scénario de base, mais tous les dialogues étaient improvisés, écrits la veille, voire même quelques minutes juste avant le tournage de la prise. Et oui, effectivement, il le dit, il y a eu pas mal d'improvisation de Belmondo, et sans Belmondo, le À bout de souffle que l'on connaît ne serait pas le même. Après, voilà, le film va progressivement prendre de la grandeur en post-production. Godard était très ami avec Jean-Pierre Melville, qui fait une apparition dans le film. Jean-Pierre Melville, qui était un peu le père fondateur de la Nouvelle Vague, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Melville va proposer à Godard les services d'un du compositeur de musique qu'il avait utilisé pour Deux Hommes à Manhattan. Donc, je me rappelle plus du nom, c'est toi qui l'affiche sur les, l'équipe technique, mais c'est un homme qui va c'est dans le jazz, qui va voir le film et qui, en voyant les images, va composer une partition musicale qui va faire partie du mythe à bout de souffle, qui va faire partie de ces bandes originales, un peu à l'instar de Ascenseur pour l'échafaud, qui vont devenir cultes. Et à partir de là, très rapidement, le film va devenir, durant les premiers jours de l'exploitation en salle, va devenir très rapidement un énorme succès. Et Godard, qui pendant les 60 avait une cadence assez énorme, il tournait beaucoup de films, et à chaque fois qu'il entamait un film, il avait déjà le scénario du film suivant. Au moment où le À bout de souffle sort en salle à Paris, il était déjà en tournage de son deuxième film, qui était Le Petit Soldat, le seul film sur un des seuls rares et bons films sur la guerre d'Algérie, et qui plus est, a été tourné alors que le conflit était encore d'actualité sur le sol algérien.
C'est vrai qu'il y a vraiment aussi ce côté musical, il y a cette partition qui accompagne. Alors, c'est pas du tout comme Ascenseur pour l'échafaud, qui est marqué vraiment avec Miles Davis dans une atmosphère vraiment particulière, mais il y a un truc aussi comme ça qui accompagne ce film et qui le rend mythique. Enfin, moi je pense que c'est ça, de toute façon c'est la patte de Godard, l'image, voilà, ce truc là cette espèce de polar complètement revisité, Belmondo, la musique, l'esprit, enfin voilà, qui fait ce film qui va devenir mythique et qui va inspirer pas mal de gens.
Et puis les touches de Godard, le jump cut, hein, le fait de couper une image en un seul et même plan, le regard caméra, cette fameuse séquence où Belmondo se retourne à la caméra et dit « Vous n'avez pas la mer, vous n'avez pas la montagne, allez vous faire foutre !»
Ce qui était ouvertement finale, vulgaire. Quoi, et dégueulasse, quoi, avec Jane Seber qui ne comprend pas ce truc-là.
Avec Belmondo qui lui-même se ferme les yeux.
Alors j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont vu ce film, mais en tout cas, on vous le recommande grandement, et puis j'espère que dans les temps à venir, on aura l'occasion de parler d'autres films de Godard aussi de cette époque-là, parce que ça vaut vraiment le coup.
Espérant qu'on n'attende pas la date le jour de sa mort. Hein. Ce que je peux juste assurer aux auditeurs, c'est que la semaine prochaine, Raphaël sera là, on sera au complet et on essaiera de faire une émission un peu plus construite. Ah si, très prochainement, sûrement pour la semaine prochaine, nous vous préparerons, peut-être avec Raphaël, une émission spéciale au Zoo, à l'occasion de la ressortie en DVD, justement, encore chez Carlotta, mais également à l'Institut Lumière. Il y a toute une rétrospective autour du réalisateur japonais Ozu. J'ai rencontré Pascal X Vincent à Cannes, qui est spécialiste du cinéma japonais et de Ozu. Et on vous touchera un mot, on vous diffusera cette interview que j'ai réalisée à Cannes et on vous parlera par la même occasion de ce metteur en scène et des films de lui qui sont en ce moment diffusés à l'Institut Lumière.
Voilà. Alors, toujours pas de tuyau sur le prix Lumière 2014 ?
Non, mais ça ne saurait tarder. On saura le nom mi-juin. Mais je l'ai dit, Almodovar était à Cannes cette année. C'est un signe. Peut-être qu'il est allé manger avec Thierry Frémaux. Peut-être qu'ils ont décidé d'un accord. On verra. Surprise.
Ça marche. Allez, à très bientôt. On se retrouve sur Brume pour de nouvelles aventures cinéma.